experts de France Bleu Toulouse. Les experts.
Vous êtes notre expert généalogie, Jean-Pierre Huguin, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes avec nous tous les dimanches pour raconter la vie et l'œuvre de celles et ceux qui nous appellent. En tout cas, l'origine de leur nom de famille, c'est le principe de la généalogie. Vous avez débrouillé un nombre d'affaires insensé. Vous avez recueilli les noms de plein de gens et vous les donnez en pâture à toutes celles et tous ceux qui veulent justement connaître ces histoires grâce au site Cercle Généalogique de Languedoc qui vous permet, à vous qui nous écoutez sur France Bleu Toulouse, eh bien d'aller retrouver les informations à votre propos. Vous disiez, Jean-Pierre Huguin.
Je voulais juste préciser que pâture est peut-être pas le mot exact, je suis désolé, mais au moins donner l'envie aux personnes, aux auditeurs, aux auditrices qui appellent, et ben justement, de parfaire et peut-être de commencer ou de continuer leur généalogie pour aller plus loin dans l'histoire familiale.
Très bien. Et puis alors, ça peut donner envie à certains d'être gourmands et de faire étudier non pas un, mais plusieurs noms. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, Marguerite. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, le soleil est là, j'ai un joli mimosa dans le jardin qui est en pleine fleur, c'est magnifique.
Bien, alors on ne peut pas parler de mimosa aujourd'hui, Jean-Pierre Huguin n'est pas un expert jardinage, mais bien un expert généalogie. Et alors, je parlais de gourmandise parce que vous ne voulez pas faire étudier un nom, mais deux.
Oui, c'est cela, mon nom de naissance et mon nom d'épouse.
Très bien, alors on va commencer par le premier, qui est Mage, c'est ça?
Mage, M-A-G-E, comme les rois.
Très bien. Jean-Pierre Huguin, je vous présente Marguerite. Marguerite, je vous présente Jean-Pierre Huguin. On peut peut-être commencer tout simplement par l'origine de ce nom Mage. Est-ce que c'est une origine d'une simplicité enfantine? Ça fait appel à de la sorcellerie, etc.
Pas du tout. Mais c'est
je m'en vais comme d'habitude. Hein.
Mais Pascal, il faut savoir que ce nom Mage est certainement celui qui a demandé le moins de recherche, le moins de travail, parce que c'est vraiment l'affiche la plus courte qu'on ait fait dans les 160 qu'on aura fait à la fin de cette émission.
Effectivement, parce que justement c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est parce que ce nom ne pose aucune difficulté.
Aucune difficulté, alors c'est un nom qu'on rencontre dans plusieurs régions de France, mais surtout c'est un nom qui est plus fréquent en Occitanie et en Occitan, parce qu'il a un sens très précis, c'est le sens de magistrat consulaire, comme lorsqu'il y avait les Capitouls, par exemple, à Toulouse, et c'est devenu le mage, on dit magistrat consulaire, mais on peut faire le parallèle avec un maire, M-A-I-R-E, donc c'est vraiment très clair, et il signifie, en fait, la personne la plus grande, l'aîné, mais dans le sens celui qui a le plus de savoir.
D'accord. De votre côté, Marguerite, vous avez fait quelques recherches sur vos noms ?
Jamais. Bon. Jamais sur l'étymologie de ce nom-là. Non, jamais.
Bon. Alors, on va continuer avec cette fois-ci les données démographiques. Combien de gens sont nés entre 1891 et 1990 avec le même nom que vous, Jean-Pierre Huguin ?
Alors, il y a 1447 naissances. Et alors, lorsqu'on dit que c'est un nom qui est plus effectivement en Occitanie, si on voit tous les départements, il y a eu 160 naissances dans le département du Lot, 140 dans le Puy-de-Dôme, 134 dans le Cantal. Et on revient chez nous en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, 37 en Ariège, 9 en Aveyron, 6 dans le Tarn, 4 en Haute-Garonne et 1 en Tarn-et-Garonne.
D'accord.
En effet, oui.
Donc c'est assez court, c'est assez ciblé.
Oui, assez ciblé.
Pour la mémoire des hommes ?
Eh bien là, justement, encore une fois, la proportion des données démographiques par rapport aux malheureux qui sont morts en 14-18 vient corroborer les départements, puisqu'il y a eu quand même un nombre important qui porte le nom de Mage. Il y a eu 49 soldats morts en 14-18. Oui, et il y en a eu 7 du département du Cantal, 5 du Lot, 4 du Puy-de-Dôme et 3 de l'Ariège.
D'accord.
Voilà, d'accord. Marguerite.
Ma famille est originaire du Cantal, précisément.
Ah bah oui. Ça, tout se tient, hein, jusque-là. On a du mal à vous prendre en défaut, Jean-Pierre Huguin. Hein. On sent le côté sérieux des recherches que vous faites. On le rappelle d'ailleurs à l'occasion, il ne s'agit pas de critiquer Internet, parce que c'est quand même un outil prodigieux. Mais avant de vous lancer dans une recherche généalogique en vous disant que grâce à Internet, vous allez trouver monts et merveilles, prenez le temps de faire des vérifications et des contre-vérifications, parce que vous risquez d'avoir quelques mauvaises surprises, sinon.
Il y a certains noms, effectivement, où ça peut poser problème. Ouais, oui.
Bon, pour Mage, il n'y a pas de problème. Cette fiche est courte et très complète tout à la fois. Marguerite, ce premier nom, nous l'avons terminé avec brio et rapidement. Si jamais vous voulez la consulter sur Internet, c'est donc sur le site Cercle Généalogique de Languedoc. Vous mettez ça aujourd'hui ?
Cet après-midi, ça sera fait.
Très bien. Donc à partir de cet après-midi, vous pourrez consulter votre fiche. Il y a une deuxième fiche qui vous concerne, Marguerite. Le deuxième nom que vous avez voulu faire analyser, dont vous voulez découvrir l'origine, c'est Nozière.
Oui, c'est ça.
Alors, comment vous l'écrivez ?
N-O-Z-I-E-R-E-S.
Jean-Pierre Huguin, l'origine de Nozières. Alors là, l'affiche est bien plus grande que la précédente. Hein.
Oui, alors je vais être indiscret. Mage est votre nom de jeune fille ou votre nom d'épouse?
Mage, mon nom de jeune fille.
Nozières, d'accord. Et Nozières, c'est le nom de votre époux?
Oui, c'est ça.
Donc vous, tout à l'heure, vous avez dit que Mage, vous étiez dans le Cantal?
C'est cela.
Et donc je suppose que votre mari est un Cantalou aussi?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a eu des branches qui ont émigré à l'Espagne.
Oui. Alors en fait, effectivement, Nozières, comme vous l'écrivez, c'est un nom qui est surtout porté dans le Cantal.
D'accord.
Voilà.
Il y a même un village qui porte ce nom.
Voilà. Alors c'est un toponyme qui désigne en fait un bois de noyer.
Ah, alors, c'est bien ce qu'on nous avait dit une fois. Ma fille avait fait quelques recherches et elle m'avait dit, tu sais, ça veut dire petit bois de noisette.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est un nom qui est, voilà. C'est un nom qui a été donné à de très très nombreux hameaux dans le département du Cantal, mais c'est un nom également de localité d'origine qu'on trouve dans deux départements, en Ardèche et dans le Cher également, et où on trouve également des hameaux en Haute-Loire, en Lozère, dans le Gard. Et en fait, le nom, je parlais tout à l'heure d'un bois de noyer, et c'est issu du mot latin nucaria, N-U-C-A-R-I-A, qui désigne une plantation de noyer.
D'accord.
Ce sont des précisions sur des informations dont vous aviez déjà eu une partie.
Ouais. Et donc, les informations qu'on avait données à ma fille, quand on avait dit petit bois de noisettes, en fait, c'est des noyers. C'est une plantation de noyers, vous me dites.
Voilà. Et alors, il faut savoir, petite précision, mais je ne l'ai pas noté dans l'affiche, c'est une anecdote, mais bien souvent, lorsque ce n'était pas vraiment un bois de noyers, lorsque les gens dans le milieu rural plantaient des noyers, c'était généralement toujours au coin d'un terrain. Parce que ça délimitait le terrain, ça servait de borne.
D'accord.
D'accord.
Voilà, bah écoutez, vous êtes, ça vous donne une assise, notez bien. Alors, si on parle de Nozières, moi il y a un nom qui m'était revenu pour les personnalités, c'était Violette Nozières. Alors je regarde l'affiche, vous aussi, hein, on est clair. C'est même l'affiche la plus grande sur les personnalités que j'ai jamais vue depuis le début de cette émission.
Oui, parce que Violette Nozières, alors qui ne sait... Qui
sait... Oui, de sinistre mémoire.
Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas de S terminale. Mais comme le dit souvent Pascal, et comme nous le rappelons de temps en temps, l'orthographe des noms de famille est venue avec la création du livret de famille en 1877, donc qu'il y ait S ou pas S, c'est identique. Alors on va revenir à Violette Nozières. Bon, c'est vrai que ça, elle a décrié la chronique judiciaire, parce que ça a été une criminelle.
Ma belle-mère m'a prévenue, m'a dit « tu vas avoir un nom difficile à porter
». Et ce fut le cas ?
Voilà.
Ce fut le cas ? Vous avez eu du mal avec ce nom ?
Eh bien, il y a un film qui est sorti il y a quelques années, là.
Oui.
Et effectivement, on m'a beaucoup chahuté avec ça.
D'accord.
Alors, il y a quelqu'un plein d'humour qui m'a dit « mais vous l'avez échappé belle parce qu'on vous a appelé Marguerite ».
C'est ça.
Oui, alors en fait, cette Violette Nozières, donc, était criminelle en 1933 et 1934. Donc, au cours des années 1930, c'était une adolescente et qui se prostituait en secret, en fait. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ses parents, en fait, étaient cousins. Et Violette Nozières, en fait, elle était en révolte contre ses parents, contre leur mode de vie, contre leur mentalité étriquée. Et elle est tombée amoureuse d'un jeune homme, quoi, et qui, lui, vivait de petits vols. Vous voyez, un petit peu, hein, le couple, comment il était. Mmh. Et donc, il vivait de petits vols et puis de la prostitution occasionnelle de Violette Nozières. Mais le problème, les parents de Violette Nozières ont été informés par leur médecin que Violette avait la syphilis. Premier gros problème dans leur vie. Et Violette Nozières, qui était quand même une petite futée, a réussi à convaincre plus ou moins sa mère, bien qu'elle fût méfiante, que ses parents, en fait, c'était eux qui leur avaient donné la syphilis et qu'elle avait hérité de la syphilis de ses parents, puisqu'ils étaient cousins.
C'est une vraie adolescente, hein, si je puis me permettre. Mais bon.
Voilà. Alors, pour les soigner, grâce à ce prétexte pour soigner ses parents de la syphilis, petit à petit, elle leur a fait prendre du poison. Et là, c'est là qu'a commencé l'affaire criminelle, en fait. Donc, son père meurt, mais sa mère en a réchappé. Et donc, Violette Nozières se voit arrêtée par la gendarmerie, elle est accusée du meurtre. Et pour se défendre, encore une fois, elle en remet une couche sur le dos de ses parents, puisqu'elle dit que son père avait abusé d'elle. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, elle a été convaincue d'empoisonnement et de parricide, et elle a été condamnée à la peine de mort en 1934, hein, puisque la peine de mort existait encore à cette époque-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout au cours de sa vie, elle a eu une chance fabuleuse, puisque bien que condamnée à la peine de mort en 1934, elle a été graciée deux mois après par le président Albert Lebrun, et sa peine a été commuée en travaux forcés à perpétuité. Mais comme elle était, encore une fois, je le répète, très futée, elle a eu une conduite exemplaire en prison, Et le maréchal Pétain, qui avait succédé donc à Lebrun, a ramené sa condamnation, qui était donc de travaux forcés à perpétuité, à 12 ans. Et à la fin de ces 12 années, elle a voulu prendre le voile, purement rentrer en religion, et elle a été libérée donc le 29 août 45. Et là, elle a été totalement graciée au 1er septembre 1945 par le général de Gaulle, qui a décrété en sa faveur un décret donc, qui a annulé les 25 années d'interdiction de séjour auxquelles elle avait été également condamnée. Et finalement, elle a fini sa vie, Villas-Nosière, elle a épousé le fils du greffier comptable de la prison. C'est assez remarquable.
Ah, voilà, hein, tout, elle était futée quand même.
Oui, oui. Et elle a eu 5 enfants. Et ce couple, donc Violette Nosière et son époux, ont ouvert un commerce. Et en fait, elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça, puisque en 1963, peu avant sa mort, la cour de justice de Rouen, en Seine-Maritime, et c'est un fait unique dans l'histoire de la justice française, surtout s'agissant d'un condamné à mort de droit commun, la justice prononce sa réhabilitation. Et donc l'affaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est connue surtout par le film de Claude Chabrol qui est sorti en 78 et qui avait été fait en 1977.
Mais comme je suis née en 1933, j'étais pas au courant de son histoire, mais c'est le jour de... Enfin, quand je me suis mariée, ma belle-mère m'a dit « Oh, attends, tu vas avoir un nom difficile à porter. » Et qui m'a expliqué pas aussi détaillé que vous ce qui s'était passé avec Violette Nosière.
Mais alors, cela étant, vu sa vie, ça se termine plutôt très bien. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Oui, oui.
Donc, que vous soyez chahuté, c'est pas grave. Hein. Si vous arrivez à avoir une qualité de vie comme la sienne à la fin, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des rebondissements. Je trouve ça assez impressionnant.
Elle s'en est remarquablement sortie, ouais, hein, c'est bon qu'on puisse dire.
Ce qui est amusant, c'est qu'elle est toujours connue, Violette Nosière, pour ses faits maléfiques, je vais dire, et pas du tout pour le côté réhabilitation. Il y a peu de gens qui sont courants, finalement.
Ben non, mais je pense que les grandes empoisonneuses, on peut parler de la dame de Loudun, où c'est pareil, tout le monde en parle, tout le monde est au courant, mais on sait pas ce qu'elle est devenue et non, tout ça. Mais bon.
En fait, ça intéresse pas les gens, la presse. C'est juste le côté un peu crapoteur. On aime lire les faits divers, mais pas ce qui se passe après. Marguerite, on va terminer avec cette fiche en parlant des données démographiques, parce que c'est un nom qui est quand même peu courant.
Alors, peu courant, il y a 455 naissances en France, et on va rejoindre le pays de naissance de votre époux, puisqu'il y a eu 124 naissances dans le Cantal, et d'accord, ensuite 46 dans le Lot, 22 dans l'Aveyron, 17 en Haute-Garonne et 2 dans le Tarn-et-Garonne.
Voilà, et puis le dernier chiffre, c'est celui de la mémoire des hommes, parce qu'il est important.
12 soldats morts, dont 4 originaires du département du Cantal.
Oui, mais ça, la guerre de 14 a fait beaucoup de dégâts, c'est vrai.
Marguerite, vous savez tout sur les noms de famille dont vous nous avez permis d'étudier un petit peu plus en profondeur l'origine et la signification. Mage et Nosière, ces fiches vous attendront dès cet après-midi sur le site du Cercle Généalogique de Languedoc. Si vous voulez vous aussi le consulter, ce site, vous allez sur le Facebook officiel de France Bleu Toulouse, vous cliquez et vous le trouvez sans aucune difficulté. Marguerite, je vous souhaite un très bon dimanche.
D'accord.
Merci de nous avoir appelés.
Au revoir, bon dimanche à vous.
À bientôt. Jean-Pierre Huguin, des affaires comme ça fait partie du plaisir de la recherche généalogique, les Violette Nosière, quand on remonte un peu le côté histoire et de voir comment ce personnage a évolué, c'est assez rigolo.
C'est rigolo, entre guillemets.
Il y a prescription maintenant.
Le mot plaisir aussi, entre guillemets. Non, mais comme je le dis souvent, en fait, faire de la généalogie, c'est pas recenser un annuaire téléphonique, c'est pas uniquement mettre des noms et des dates. L'intéressant dans une recherche généalogique, c'est en fait de faire revivre les gens à l'époque où ils ont vécu. Mmh. En fait, c'est un peu se transporter, vous, à cette époque-là, et voir quelle a été leur vie, quoi, dans le milieu familial, au niveau des fratries, au niveau des conjoints, au niveau des régimes militaires ou politiques. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. 14-18, c'est effarant, on découvre, on est à 30, nous, avec notre association, de faire un recensement de tous les monuments aux morts. Actuellement, on est à plus de 650 monuments aux morts sur les communes.
Ouais.
Et quand on voit le détail, puisqu'on rentre dans le détail vraiment des décès des soldats, quand on voit qu'il y a des jeunes qui meurent le jour de leur anniversaire, qui meurent le jour de Noël, le jour de l'an, des gosses qui meurent à 18 ans, à 20 ans, et puis des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, ou des gens qui ont deux, trois frères, qui sont tous les trois à la guerre, qui meurent le même jour, bizarrement, alors qu'ils ne sont pas l'un à côté de l'autre.
Ouais.
C'est incroyable.
Vous restez avec nous sur France Bleu Toulouse. On va continuer bien sûr à parler des noms de famille. Peut-être le vôtre, hein, vous n'hésitez pas. 05 34 43 31 31. Vous le confiez à Jean-Pierre Huguin et il va vous donner l'origine, enfin tout ce qu'il faut savoir dessus. 05 34 43 31 31. C'est le nom de famille Renard qui nous intéresse dans quelques instants. Annick, on va vous retrouver. France Bleu Toulouse.
sur France Bleu Toulouse. Le vent nous portera. Restez avec nous, vous écoutez les experts généalogie sur France Bleu Toulouse avec Jean-Pierre Huguin. On revient dans un tout petit instant pour étudier votre nom, Annick. Le nom, c'est Renard.
France Bleu. France Bleu Toulouse, tous les week-ends, par ici les sorties.
Loto, vide-grenier, concert, tous les samedis et tous les dimanches à 11h, par ici les sorties. Venez nous présenter les manifestations que vous organisez ou celles que vous aimez au 05 34 43 31 31. Rendez-vous samedi et dimanche à 11h.
Par ici les sorties.
Sur France Bleu Toulouse.
France Bleu, votre station service.
Écoutez France Bleu pour connaître les stations où le carburant est le moins cher.
France Bleu,
votre station service. Toutes les fréquences sur francebleu.fr.
France Bleu.
Experts de France Bleu Toulouse, 05 34 43 31 31. Vous pouvez compter sur eux.
Et vous composez ce numéro sur France Bleu Toulouse pour pouvoir faire étudier votre nom de famille grâce à Jean-Pierre Huguin. Bonjour Annick.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, très bien, puisque je vous ai au bout du fil.
Bah évidemment, enfin, j'espère que ça va bien, même quand vous nous appelez pas, hein, attention. Je ne vais bien oui, que quand je parle à France Bleu Toulouse.
Voilà.
Je vous présente Jean-Pierre Huguin.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour. Alors le nom de famille que vous voulez faire étudier, c'est donc Renard.
Oui, c'est mon nom de jeune fille, parce que mon nom d'épouse, Sourbieux, j'avais posé une colle. Donc là, c'est un nom de jeune fille.
Très bien. Jean-Pierre Huguin. Renard, qu'est-ce que vous en avez fait ?
Eh bien, ce que j'en ai fait, pas grand-chose, parce que Renard, encore une fois, c'est comme mage. Il n'y a pas beaucoup de solutions et ce n'est pas une grosse, grosse difficulté.
Mais c'est le contraire, justement, ça ne vous a pas posé de colle. Hein. C'était...
Non, mais bon, c'est vrai que quelquefois, Pascal, tout à l'heure, disait que c'est rare qu'on me prenne en défaut. En défaut, non, mais des fois, j'ai des blocages, effectivement, parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître et on ne sait pas tout sur l'origine des noms, et ça a été votre cas dans le premier nom que vous aviez posé. Donc, Renard, en fait, c'est un nom de personne d'origine germanique. On peut distinguer en deux syllabes, mais le nom d'origine germanique, alors, je suis désolé, mais je ne suis pas germanophobe et je ne sais pas la prononciation exacte, mais en fait, le nom, c'est Raginhard, R-A-G-I-N-H-A-R-D. Donc, Ragin, R-A-G-I-N, ça veut dire conseil, et Hard, H-A-R-D, ça veut dire dur.
Ça, je savais. Ça marche pour l'anglais aussi, hein, attention. Alors, passer de Renard à Raginhard, c'est pas mal. Mais Renard, excusez-moi, mais ça ne peut avoir aucun rapport avec l'animal.
Alors, si, justement, si. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui est assez drôle, c'est que Renard, en fait, c'est un nom commun qui, au départ, fut un prénom avant d'être un nom de famille.
D'accord.
Voilà. Et en fait, le renard, c'est la popularité du goupil. Et il y a un célèbre roman médiéval qui a fait peu à peu transformer ce prénom renard en nom commun. Mais dans le roman médiéval, renard s'écrivait pas avec un D terminal, mais avec un T terminal. R-E-N-A-R-T.
Et alors, du coup, il y a des variantes.
Oui, il y en a deux, hein, mais on peut en trouver d'autres, mais les deux plus connus qu'on rencontre le plus souvent, c'est Renard, effectivement, comme je viens de le dire, avec un T terminal, et on trouve aussi le petit Renard, Renardet, R-E-N-A-R-D-E-T.
Alors, du côté des personnalités, il y en a une qui tombe sous le sens, c'est Colette Renard, et là, à chaque fois, vous avez des yeux, vous me regardez comme si je disais une insanité, parce que, en fait, c'est comme souvent chez les artistes, il y a des noms d'emprunt qui ne sont pas les réels noms de famille.
Voilà, alors Colette Renard, effectivement, je ne vais pas en dire grand-chose, parce qu'en fait, son nom, elle s'appelait Colette, mais Raget, R-A-G-E-T. Donc, Colette Renard est une dame qui était née en 1924 à Hermont, dans le Val-d'Oise de nos jours, et qui est décédée en 2010 à Saint-Rémy-les-Chevreuses, dans les Yvelines de notre temps, je dirais. Donc, elle fut chanteuse et comédienne française. Alors, on pourrait dire c'est une dame que les moins de 20 ans n'ont pas connue. Eh bien, pas du tout, justement, puisqu'elle a terminé sa carrière de comédienne dans un feuilleton très célèbre sur France 3 qui s'appelle « Plus belle la vie ».
Ah, du don, j'en ai entendu parler.
Voilà. Et alors, Colette Renard, par contre, je n'ai pas trouvé pour quelle raison elle a pris ce pseudonyme de Renard. Je n'en sais rien du tout.
Oui, parce que ça peut ne pas être de raison. Enfin, il y a des gens qui ont juste envie de préserver leur famille.
Oui, elle a pu ouvrir l'annuaire et puis prendre un nom au hasard. C'est possible, ça, ouais. Mais pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? Mais généralement, il y a toujours un grand-père, il y a toujours une raison avec le nom d'une grand-mère ou le nom de jeune fille de la mère et tout. Et là, pas du tout, justement.
Bon, mais bon. Alors, il y a une chose à souligner avec Renard, mais ça, Annick, j'imagine que vous le saviez déjà, c'est que c'est pas un nom rare. Anis ?
Non. Non, non, pas du
tout. Ah pardon,
non,
je vous avais perdu.
Je sais que c'est un nom, on va dire, commun, il y en a beaucoup.
Alors justement, on peut le vérifier avec les données démographiques. Là, le chiffre est intéressant quand même, hein ?
Oui, parce que en fait, le nom de renard, je parlais tout à l'heure du goupil, le renard, il a été surtout donné au départ à des gens qui étaient futés, quand on a donné les noms au XIIe siècle. Donc des gens futés, il y en avait dans toute la France. C'est pour ça qu'on trouvait énormément de naissances, puisque le nombre de naissances sur le siècle est de 38 621 naissances, ce n'est pas rien.
On en trouve moins, vous voulez dire que les gens sont moins futés maintenant ? Non, je ne répondais pas à cette question. On va plutôt faire le détail de ces données démographiques en fonction des régions.
Alors ce qui était très, très étonnant justement quand j'ai étudié ce nom, je me suis dit le goupil, le renard, les gens futés, il doit y avoir un rapport avec des gens peut-être vis-à-vis de l'animal ou pas. Et très bizarrement, j'ai rapproché ça avec une carte qui est faite par les gens, par les chasseurs. Et effectivement, on trouve dans le nord de la France 3660 naissances.
Ah oui, donc ça marche.
Oui, on trouve 984 naissances dans la Sarthe, 975 en Eure-et-Loire, 938 en Seine-Maritime, 929 en Meurthe-et-Moselle, et ainsi de suite, on continue. Et ce qui est bizarre, c'est les zones où il y a eu le plus de recensements de renards, l'animal de fait.
D'accord.
C'est assez drôle, le rapprochement, la coïncidence. Et dans nos régions, alors le chiffre est beaucoup moindre, puisqu'on trouve que 12 naissances dans la Haute-Garonne, un peu plus dans le Gers, puisqu'il y en a eu 98, 93 dans le Tarn-et-Garonne, on en trouve dans le Tarn, dans l'Aude, dans l'Ariège et l'Aveyron également.
Et pour la mémoire des hommes, forcément, il y a eu un nombre conséquent de soldats décédés lors de la Première Guerre mondiale.
Ouais, alors j'ai pas, on va faire simple, il y a eu malheureusement plus de 500 soldats morts sous le nom de renard, dont 60 du département du Nord.
Vous disiez, Annick ?
Dont mon grand-père.
Eh oui. Donc, bah voilà, vous savez tout pour votre nom de famille.
Et donc, mon grand-père est né en Bretagne.
Ah, donc on n'est pas loin du Nord, hein, cela étant.
Oui, absolument.
Ah, ça va, pas loin, attendez, par rapport à Toulouse. Regardez, si vous voulez. Bon, moi je simplifie terriblement, hein, la France, la coupe en quatre. Il y a le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest, ça suffit bien. Bon, Annick, l'affiche, vous la retrouvez sur le site du Cercle Généalogique de Languedoc. Si vous n'avez pas Internet,
non,
vous... Eh ben vous allez faire des yeux de bichon à Blandine. Je vais vous la renvoyer au téléphone. Elle vous enverra avec plaisir l'affiche.
Voilà, soyez futé avec Blandine, vous avez raison.
On en trouve encore. Merci beaucoup, Annick. Je vous souhaite un très bon dimanche.
Bonne journée. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
On fait la route ensemble avec Murprotec Midi-Pyrénées. Solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur www.murprotec.fr.
Il y a des difficultés de circulation, principalement sur l'A64. Vous êtes prudent si vous circulez sur la Pyrénéenne, on l'a appris il y a quelques minutes. Il y a eu un accident sur la Pyrénéenne vers le nord-est. C'est donc dans le sens remontant, si vous revenez vers Toulouse, à hauteur de Roc, vous allez croiser cet accident. Prudence donc dans le secteur, si vous êtes sur l'A64, la Pyrénéenne, que vous remontez vers Toulouse, arrivé à hauteur de Roc, vous allez croiser un accident qui est toujours en cours. Si vous avez des précisions, si vous êtes passé à proximité, vous n'hésitez pas. 05 34 43 31 31, vous êtes nos yeux sur la route. 9h34, les experts généalogiques continuent dans un petit instant. Vous pouvez nous appeler, vous devez nous appeler si vous voulez faire analyser, décrypter votre nom de famille, si vous voulez en connaître les origines. 05 34 43 31 31, confiez-nous votre nom. Nous le confions à notre expert du dimanche, Jean-Pierre Huguin, notre expert généalogiste qu'on retrouve dans un petit instant.
Sur sa guitare, ses riffs comme des fluides transpercèrent le brouillard. Puis la lumière dorée du soleil de Négri planait sur la fumée en petites notes agiles. Ses textes étaient précis et bourrés d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. aussi, mais pour d'autres raisons. J'avais passé 10 ans à dormir en prison. C'était une drôle d'affaire pleine de coups d'escopette, de transporteurs de fonds et puis de grosses galettes.
Tempo Harmonie, c'était Bernard Lavillier et Jimmy Cliff sur France Bleu Toulouse. Vous restez avec nous. Les experts généalogie, suite et fin dans un petit instant. Le nom de famille qu'on va étudier, c'est le vôtre, Francine. On va parler de Reynaud.
France Bleu.
Tous avec le TFC sur France Bleu Toulouse.
Toulouse va mieux en ce début d'année, mais Toulouse est encore avant-dernier du championnat. Il faut gagner, et pourquoi pas ce dimanche à Monaco. Monaco TFC, une rencontre à suivre à partir de 14h.
À vivre en intégralité sur France Bleu Toulouse 90.5
et sur francebleu.fr.
Premier vignoble biologique de France, le terroir viticole de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées est à l'honneur du 25 au 27 janvier à Montpellier lors du Salon Mondial Millésime Bio.
Plus de 5000 acheteurs professionnels sont attendus par les 900 vignerons venus du monde entier.
La filière viticole bio est un enjeu économique, environnemental et de santé publique.
Plus d'infos sur millésime-bio.com.
France Bleu.
Les experts de France Bleu Toulouse.
Bonjour Francine.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Vous noterez que j'existe jamais dans ces émissions. Francine, c'est pas grave, je vous parle quand même, je suis pas fâché. Quel est le nom de famille que vous vouliez faire étudier ?
Alors, Reynaud, R-E-Y-N-A-U-D.
Jean-Pierre Huguin, puisque vous avez l'air de bien connaître Francine, qu'elle vous connaît bien également et que je n'ai pas ma place, je vous laisse pour l'origine de ce nom.
Alors, Reynaud, R-E-Y-N-A-U-D, en fait, c'est la forme occitane de Renaud, R-E-N-A-U-D. Et les coïncidences de notre émission d'aujourd'hui fait que, une nouvelle fois, c'est un nom de personne d'origine germanique et qui a la même racine, en fait, que le nom que nous avons vu de Renard tout à l'heure.
Ah ben, cela dit, les noms se ressemblent. Reynaud, Renard, on n'était pas très loin.
Voilà.
Alors, c'est ça, c'est voisin.
Ouais. Voilà. Alors là, en fait, le nom d'origine germanique, dans votre cas, c'est Raginwald, R-A-G-I-N-W-A-L-D. Donc, il y a deux racines. Ragin, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est conseil, et Wald, W-A-L-D, qui est gouverné.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, en fait, le nom de Reynaud, c'est quand même dans, je vais dire, des régions très précises qui sont l'est de la France, puisque on les retrouve surtout dans l'Ardèche, dans la région lyonnaise et dans le Vaucluse. C'est quand même très ciblé.
Et alors, il y a un nombre de variantes. C'est exhaustif, la liste des variantes que
Alors là, je vais vous dire, il y en a peut-être que, allez, je ne vais pas exagérer, il n'y en a que 10%.
Ah d'accord. Alors attention, accrochez-vous, parce qu'il y a du monde déjà. Hein.
Voilà, alors, il y a Rénal, R-A-Y-N-A-L, comme la gare Rénal à Toulouse, pareil. Mm-hmm. On a Rénalt avec un T terminal, on a Reynaud avec un A-Y, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rénal, mais avec un E-Y, et là, on le trouve, cette forme de Rénal, R-E-Y-N-A-L, surtout dans le département de la Corrèze et dans les Pyrénées-Orientales. On trouve Rénald, E-R-E-Y-N-A-L-D, dans l'Ariège, Après, on trouve Reynald avec ALT à la fin, AULT également dans d'autres départements. On trouve Renault, REY, NAU et NEY, AUD. Vraiment, mais je vous dis, c'est que 10% des variantes qui existent en Renault.
D'accord. Alors, on va rester sur l'orthographe originale, REY, NAUD, puisque c'est celui que vous nous avez confié, Francine. Il y a une personnalité qui. C'est Jean-Paul Reynaud, mais ça pose pas ça, la personnalité, face pas lui.
Alors, il raccourcit, en fait, je ne sais pas pour quelle raison. En fait, il a fait un petit gommage sur son premier prénom, parce qu'en fait, c'était Jean-Paul, mais en deux prénoms. Hein. C'était pas un prénom composé.
Ah, d'accord.
Comme le mien, Jean-Pierre, c'est un seul prénom, mais Jean-Paul Reynaud, c'était deux prénoms. Et donc, il a gommé le premier, et il est connu sous le nom de Paul Reynaud. Et au niveau politique, ça a été quelqu'un, même de nos jours, qu'on connaît encore. Donc, c'est un monsieur qui a vécu à un âge confortable, puisqu'il est né en 1878 et il est mort en 1966. Donc, il est mort, il avait 88 ans. Mmh. Il est né dans les Basses-Alpes, qui sont les Alpes de Provence de nos jours. Et il faut savoir, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un homme politique français. Il a été député de son département. Puis après, il est monté à Paris, il a été député de Paris. Il a été plusieurs fois ministre sous la Troisième République. Et on le connaît surtout comme ministre des Finances. C'est comme ça qu'il est resté dans les mémoires de beaucoup de Français. Il a été ministre des Finances en 1938 sous le gouvernement de Daladier à l'époque. Ensuite, il a été président du Conseil. Il a cumulé cette fonction-là avec celle de ministre des Affaires étrangères, puis de la ministre de la Guerre. Et là, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, et c'est à l'époque où il était ministre de la Guerre. Et lorsqu'il y a eu la débâcle de juin, alors qu'il était en désaccord avec les principaux membres du gouvernement et des responsables militaires quant à la conduite à tenir de la guerre, et bien en fait, il a démissionné et il a été remplacé par un autre personnage célèbre qui était le maréchal Pétain. Mmh. Et c'est le maréchal Pétain qui a signé l'armistice, chose que Reynaud ne voulait pas. Et ensuite, après la guerre, et bien il a été emprisonné malheureusement parce que il n'a pas fait face, à ses obligations. Sa carrière politique, malgré tout, a repris et a s'est poursuivie jusqu'au jour de son décès, où il a continué à être en activité.
D'accord. Au niveau des données démographiques, on se rend compte que c'est un nom qui est quand même pas mal porté. Hein.
Alors, c'est un nom qui est énormément porté, puisqu'il y a eu 20 517 naissances. Et là, on va retrouver nos départements de l'Est de la France, puisqu'il y en a eu plus de 2000 dans l'Ardèche, plus de 2000 dans les Bouches-du-Rhône, plus de 2000 dans la Drôme. Et si on revient dans notre région, il y en a eu 64 en Haute-Garonne, 42 dans les Hautes-Pyrénées, mais on en trouve également en Aveyron, en Tarn-et-Garonne, en Ariège, en Tarn, dans le Lot et dans le Gers.
Et pour terminer...
Les parents de mon mari, donc, sont plutôt originaires de Marseille.
Les Bouches-du-Rhône, voilà, on est plein dedans.
Voilà. Bon. Donc... On ne savait pas vraiment d'où venait ce nom, quoi.
Maintenant, vous le savez.
On
va en terminer avec la mémoire des hommes. Et là aussi, alors, qui dit nom beaucoup porté, dit beaucoup de soldats morts.
Voilà, il n'y a aucun problème. Il y a vraiment un rapport entre les données démographiques et malheureusement les soldats morts, puisqu'il y a eu plus de 500 soldats portant le nom de Reynaud, REY-NAUD. Plus de 500
D'accord.
sous cette graphie-là.
D'accord.
Francine, vous savez tout ?
Bah écoutez, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions.
Voilà, et je vous souhaite une bonne journée. Et excusez-moi si je ne vous ai pas dit bonjour tout à l'heure.
Non, monsieur, je vous en prie.
Dites-lui au revoir à Pascal.
Alors maintenant, je lui dis au revoir. Au revoir, Pascal.
Merci, Francine. Vous pouvez dire au revoir aussi à Jean-Pierre Huguin, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison, on ne va pas se fâcher. Jean-Pierre Huguin, on se retrouve dimanche prochain, bien évidemment, toujours sur France Bleu Toulouse. Et vous qui nous écoutez, c'est le moment ou jamais. Hein. Vous pouvez nous envoyer votre nom de famille. Vous pouvez nous le donner d'abord sur Facebook, si vous le souhaitez, ou même ici par téléphone. Vous faites le 05 34 43 31 31 pour en découvrir les origines. Jean-Pierre Huguin, dimanche prochain.
Bon dimanche, Pascal, au revoir.
Merci.